Nous sommes samedi 20 octobre 2012 et vous écoutez une revue de Proxy Jeux. Une revue car nous sommes le troisième jour du Salon d'Essen et nous sommes toujours en Allemagne, dans la Ruhr. Et je vous salue, joueurs et joueuses, et je salue Jérémy. Bonjour Jérémy.
Salut Olivier.
Comment vas-tu?
Bah ça va, un peu triste, c'est bientôt fini.
Voilà, alors on a passé plusieurs semaines à vous dire qu'on était tout heureux parce que on allait enfin aller à Essen. Et ben voilà, on est maintenant assez triste parce que demain on repart. Donc dernier numéro, troisième jour, samedi, et on n'aura pas de numéro 4, donc rien pour demain soir. On vous fera un débrief, un plus gros dossier pour vous dire ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a aimé, ce qu'on a raté. Mais plutôt dans quelques jours, il va falloir qu'on rentre, qu'on dépunch, ou qu'on punch, qu'on dorme.
On passe 5 heures de sommeil et 10 heures sur le salon par jour, ça marche pas au bout d'un moment, ça va plus marcher.
Voilà, qu'on mange un petit peu de verdure, de la salade, des haricots, n'importe quoi, mais rien qui ressemble de près ou de loin à une saucisse.
Ou du schnitzel.
Et du schnitzel, donc la viande panée allemande. Et puis on remettra ça, mais on va souffler un petit peu après ce marathon. Alors, on va commencer par des choses qu'on a oubliées, parce que on a oublié certains trucs, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire et tellement de choses à dire, qu'on a oublié de vous en parler. Alors, première chose, le BGG Math Trade. Alors, on vous en a parlé, puis je vais laisser Jérémy, qui lui s'était inscrit, vous faire un petit point sur comment ça s'est passé pour lui, parce que t'es un petit peu folklorique, j'ai l'impression.
Ouais, c'était pas simple. Alors, pour rappel, le BGG Math Trade, c'est un algorithme de Board Game Geek qui permet de rentrer, en fait, lors d'une réunion de joueurs, on rentre les jeux dont on veut se débarrasser et les jeux qu'on recherche. On a un certain délai pour le faire et il y a tout un algorithme ensuite qui travaille, qui va dire bon bah ok, tel jeu tu vas le donner à telle personne, tu récupères rien en échange, par contre tu iras voir telle autre personne qui te donnera un jeu, etc.
C'est une chaîne et c'est pas réciproque, enfin c'est pas toujours réciproque.
Ça peut être réciproque mais pas toujours. Et donc cette année il y avait eu un grand succès, on en a parlé dans l'épisode 35, à tel point qu'à partir de 2500 jeux ils avaient arrêté de remplir des jeux dans le truc. Mm-hmm. L'algorithme avait patiné un petit peu mais il a réussi à sortir une liste. Moi, j'avais que deux jeux à échanger parce que j'ai pas le temps d'entrer tous mes jeux. Je suis vite arrivé à la limite des 2500. Par contre, d'autres chèques, ils en avaient 12 jeux. Le principe, c'était que, il y a des rendez-vous tous les jours à 13h.
Et l'année dernière, c'était uniquement le jeudi.
Ouais, je crois que c'était que le jeudi.
Tous les jours à 13h dans le hall 4.
Dans le hall 4A. Et donc je suis arrivé un petit peu en avance, mais il y avait déjà un monde, il commençait déjà à y avoir du monde. Et donc, on s'est retrouvé là-dedans à plus de 100 personnes, je pense. Tous avec des jeux à la main, alors à les montrer, à se promener un petit peu, à faire les 100 pas dans le hall.
Comme ces oiseaux qui
font
font la cour.
Des fois, il y a des gens qui semblent regarder la nouvelle boîte, on se dit « Ah, enfin, je vais pouvoir faire l'échange !» Parce qu'au bout de 10 minutes de faire comme ça les 100 pas, on en a un petit peu marre. Et petit à petit, bah finalement, on arrive à trouver la personne.
Petit à petit, tu veux dire avec un petit peu de patience.
Avec un peu de patience. Alors en fait, cette année, j'étais mal préparé. L'année dernière, bon, il n'y avait pas tant de monde que ça à la Master Trade, donc ça allait bien. Et cette année, en fait, la bonne idée, c'était d'arriver avec son pseudo ou un moyen d'être repéré facilement. Parce que au milieu de tant de monde, c'était un petit peu délicat. Alors, moi, j'avais deux jeux, donc ça allait en 10 minutes, 10-15 minutes, j'ai réussi à me débarrasser.
Disons 25.
25, parce qu'on avait en avance. Mais ouais, bon, bah voilà, c'est ça. Et en gros, il paraît que ça se décante vraiment, la Master Trade, il vient au bout de 30 minutes à peu près, ça y est, ça s'est décanté, tout le monde a réussi à trouver ce qu'il avait récupéré.
Mais il faut prendre patience.
Faut prendre patience, mais ça a marché. Moi, en tout cas, j'ai pu échanger mes jeux comme prévu.
Alors, Master Trade, c'est quand même un très bon système. Il y en a un peu partout dans le monde et surtout en France. Je sais qu'il y en a eu un au printemps. Donc on vous tiendra au courant. On va essayer de voir de guetter la prochaine Master Trade et on vous dira où est-ce que ça se fait et comment ça se passe.
Ouais, parce que là après, je suis pas sûr qu'il y en aura eu l'année prochaine parce qu'en fait
c'est trop le bazar. Ça explose.
Donc après, faut peut-être faire une Master Trade par pays ou enfin ils vont s'organiser, je pense, différemment pour les autres années.
Donc c'est la mort du jeu de société d'occasion.
Je sais pas. En tout cas, chaque année, il y a de moins en moins de boutiques d'occasion, et c'est sûr qu'avec ce genre d'événement, je pense que c'est.
Donc c'est très bien. Ça veut dire que il y a un vrai circuit de circulation des jeux anciens. C'est pas mal.
Oui, parce que t'échanges finalement des jeux de fond de tiroir. Enfin, je veux dire, on n'échange pas les jeux qu'on aime bien. On échange des jeux qui nous plaisent pas forcément. Et du coup, on voit vraiment tout type de jeux que les gens s'échangent. Ça veut dire que. Enfin, c'est bien. C'est du jeu.
Pas mal ce que j'ai vu, moi. Ok. Oui, non. Autre sujet qu'on n'a pas abordé, on a vu des choses un petit peu particulières cette année à Essen, c'est des rangements en mousse, et notamment des rangements pour X-Wing. Donc ça se présente dans un format qui est identique à celui de la boîte de base. Vous enlevez les thermoformages, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans, vous enlevez la miniature, et puis après vous mettez votre mousse, vous remettez les premières figurines, vous mettez les extensions parce qu'il y a la place pour les extensions, et puis vous pouvez ranger tout ce qu'il y a comme comme autre matériel, la règle par exemple, les pions, les deux choses comme ça.
Et il y avait donc Dreadfleet et Space Hulk également comme ça qui étaient disponibles.
Donc ça, j'espère que on trouvera le lien, on vous le mettra peut-être pas ce soir sur le site, mais on vous enverra un lien.
Ouais, parce que j'ai trouvé le prix correct.
Oui, c'était 16€ pour la mousse de X-Wing. Ouais. Bon, après, c'est plus de 80€, entre 80 et 100€ pour avoir l'ensemble des miniatures, la boîte de base et des extensions.
Le truc de X-Wing, ouais.
Alors, on peut rajouter 16€ pour avoir une super boîte dans laquelle tout tient. Voilà. Ça, c'est clair. Et puis, comme à son habitude, le fair play, on vous en a parlé, on en reparlera peut-être à la fin du podcast, cette émission.
Oui, on pourra redonner un petit peu le classement.
Donc à 9h15, on est rentré sur le salon. Et là, grosse surprise, alors que les années précédentes, et puis même hier, on a pu quand même rentrer assez vite, on constate que on nous jette et que on ne nous permet pas l'accès avant 9h30. Donc ça s'explique peut-être par le fait qu'il y a beaucoup d'entrées presse.
Les exposants, ils sont pas tous encore arrivés en plus, de toute façon, à 9h, donc on peut comprendre qu'ils aient peut-être demandé aux organisateurs de repousser un petit peu l'entrée presse.
Enfin, quoi qu'il en soit, ça nous a permis de réserver une table. On est allé chez Portal pour réserver Robinson Crusoe. C'est un jeu plutôt familial, mais familial plus. C'est-à-dire il faut quand même des enfants qui jouent ou des gens qui sont quand même assez habitués aux jeux de société. 8 ans et plus, 60 à 120 minutes, 1 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif qui a quand même des choses un petit peu spécifiques, notamment que le jeu réagit aux actions qu'on va prendre. C'est-à-dire, petit exemple, si vous décidez de manger de la nourriture un peu avariée, c'est-à-dire une chèvre qui est morte, on est toujours dans un univers d'îles sur lesquelles il faut survivre, donc il faut manger, vous pouvez avoir la diarrhée, voilà, des choses comme ça. Il faut vous protéger de la pluie, il faut vous protéger des bêtes sauvages. C'est Koh-Lanta, c'est exactement ça. Mais c'est très dur. Ça a l'air très très bien, pas forcément d'effet leader, et vraiment très très bien. Le gros problème, c'est que c'est en anglais, et qu'il y a beaucoup 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 de textes sur les cartes, et notamment sur les cartes personnages. À part ça, on vous en redira on ira un peu plus loin dans l'explication, puisqu'on va y rejouer, on l'a ramené dans nos bagages. Et puis, Jérémy, toi tu as rencontré les gens de Why Me.
Oui, l'éditeur Why Me qui présentait le jeu Western Town. J'ai interviewé du coup l'auteur, éditeur, alias Olivier,
Je suis en train de me demander.
Qui va, du coup, je vous laisse écouter, puisqu'il vous présente tout, le jeu, son financement... Voilà.
Nous sommes sur le stand de Western Town et nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Tu peux nous présenter plus rapidement ton projet, parcours, ton jeu.
Donc je suis l'auteur de ce jeu et je lance ma société d'édition pour l'éditer. Le jeu Western Town est un jeu mixte entre un jeu de gestion classique avec la gestion de ressources, construction, etc. Et énormément d'interactions dans le sens où on va jouer avec ses voisins pour prendre l'ascendant sur eux et gagner. On ne peut pas jouer dans son coin et gagner tout seul.
D'accord.
Donc peut-être rapidement faire un tour de jeu. Donc chaque joueur a son matériel individuel, son plateau, ses bâtiments qu'il va construire. Dès que tu construis un bâtiment, tu récupères une carte action qui correspond. On reste dans le thème avec une certaine logique. Parmi tous les bâtiments que tu as et donc toutes les cartes que tu possèdes, tu vas devoir en choisir que quelques-unes tous les tours. La partie se joue sur 5 tours. Et sur les cartes que tu as sélectionnées, tu vas en jouer quelques-unes. Et donc on reste encore jusqu'à maintenant sur une phase assez classique de jeu de gestion, et la phase suivante c'est la plus intéressante où il y a beaucoup d'interactions, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné dans la partie on va devoir s'appuyer sur les voisins en motivant les hommes de sa ville pour faire mieux qu'eux, c'est-à-dire par exemple si un joueur a fait un bâtiment commun à ce que nous on a joué, on sera capable d'avoir un effet bonus supplémentaire parce que notre voisin fait la même chose et lui on lui retourne sa carte, ça lui fait un baisser au contraire ses bonus. Donc il y a énormément d'interactions. Il faut réfléchir à l'ordre d'action qu'on souhaite effectuer et c'est un jeu qui plaît beaucoup parce que c'est un mix vraiment de ces deux aspects.
Oui, on a eu pas mal de bons échos ces derniers jours là-dessus. Donc voilà, félicitations.
Merci beaucoup.
Et ton financement, enfin comment tu t'es lancé, parce que tu es l'auteur et tu t'auto-édites, donc c'est un sacré pari. Comment tu as fait pour le financement?
Donc effectivement, quand on démarre, on a deux gros problèmes. C'est premièrement les problèmes de trésorerie, parce qu'il faut quand même démarrer la machine. Le deuxième problème, c'est qu'on n'est pas connu du tout. Donc j'ai trouvé l'aspect crowdfunding intéressant sur cet aspect, c'est-à-dire que ça permettait de mettre en avant le jeu avant qu'il sorte. et voir s'il y avait une accroche publique. Donc l'idée c'était d'utiliser la plateforme Ulul sur qui est une plateforme française de crowdfunding, l'équivalent de Kickstarter, sur laquelle j'ai mis en place le projet avec quand même déjà de l'explication des règles définitives et puis beaucoup de background au niveau des illustrations pour montrer à quoi allait ressembler le jeu. Et expliquer la démarche, c'est-à-dire si j'ai suffisamment d'intérêt de pouvoir éditer. Donc ça a été un succès, on a pratiquement fait 200% de financement et je remercie énormément les Ululeurs qui m'ont permis de démarrer la machine.
Et comment tu as communiqué sur ce projet ?
Donc il y avait deux aspects, les Français qui permettaient de... Enfin, que c'était plus facile de communiquer pour les Français. Il y avait un aspect aussi américain, parce que c'est un jeu sur le western, ça pourrait leur plaire. Donc j'ai fait énormément de publicité sur Board Game Geek avec des espaces publicitaires et sur Trick Track un petit peu aussi. Et ça s'est fait de bouche à oreille un petit peu. J'ai un club de jeu qui a énormément poussé parce qu'on a énormément testé ensemble le jeu et ça a réussi à se faire de bouche à oreille. On a profité sur de Lille, dans le nord de la France. Enfin, tout le monde le sait. Mais on a profité d'un événement important tous les ans qui est Ludinor pour faire un peu le buzz sur le jeu et le financement a bien explosé à partir de ce moment-là.
D'accord. T'as fait un financement sur combien ? Sur 30, 45 jours ? Quelque chose comme ça ?
On est pas. Non, sur Ulul, je suis parti carrément sur 60, je crois.
D'accord, ouais,
deux mois. Et bon, effectivement, il y a des étapes où c'est très long. Donc, les gens qui veulent se lancer, il ne faut pas avoir. Enfin, faut pas désespérer. Et il y a eu deux pics, c'est-à-dire au moment où on a dépassé le seuil et puis à la fin.
D'accord, ouais, très bien. Eh bien, écoute, on verra peut-être que tu as Skype. On pourra peut-être refaire une interview.
oui.
Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir un jeu depuis son financement jusqu'à la réalisation.
D'accord.
Parce que souvent, on parle beaucoup de Kickstarter nous, dans le podcast, mais c'est Kickstarter, c'est américain. Alors que là, si on peut en parler sur un projet français, c'est encore mieux.
Ouais, et puis j'étais le premier sur la plateforme termes de jeux de société, donc je suis assez fier de la réussite. Et...
C'était quand que tu as fait la levée de fonds ?
Non, la levée de fonds, elle s'est terminée il y a 6 mois.
C'était il y a 6 mois, mais ton projet a été plus...
Mon projet, le jeu, je l'ai entamé il y a 7 ans. Donc,
D'accord, ok, très bien. Enfin, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, donc Western Town, c'est un jeu donc chez Wyme pour 2 à 4 joueurs, pour 90 minutes environ, à partir de 12 ans. Ça semble prometteur, on a eu pas mal de bons échos sur le salon, donc je le ramène pas dans mes bagages parce qu'on va le trouver en boutique française, mais sans doute que je reviendrai dessus dans un prochain épisode.
Et vous avez été nombreux à nous demander des informations sur Ankama. Vous avez vu que Jamy a fait quelques photos de la vitrine Dofus d'Ankama. Et on est retourné les voir, on aura posé quelques questions, notamment sur Dofus Crossmaster, qui est le jeu de société Ankama. Un jeu d'escarmouche pour 2 à 4 joueurs, je pense. Une grosse boîte avec des figurines. C'est un peu comme Spellbound, mais avec un vrai jeu dedans.
Ouais, avec des figurines, des belles figurines bien grosses.
Bah, comme on peut les connaître de Dofus. Et c'est une grosse boîte qui vaut 50 euros. Enfin, qui a été vendue sur le salon 50 euros, donc ce sera pas moins cher en France. Et puis, des déclinaisons en petites boîtes, en booster, parce que les figurines peuvent être changées. On peut faire du PVP de figurines, d'escarmouches avec d'autres figurines.
Il me semble qu'il y avait une trentaine de figurines, dont 8 rares et le reste en commune.
Là aussi, on a interviewé une personne dans Kama qui va nous a parlé du jeu. On vous laisse écouter ça et on vous reprend tout de suite après.
Et aujourd'hui, nous sommes sur le stand Ankama et j'ai le plaisir d'être avec Pierre-Henri Dupont. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour.
Et on voudra avoir quelques informations sur la gamme de jeux de société. Donc c'est Crossmaster Arena, je crois.
Alors, tout à fait. Le premier jeu de la gamme va s'appeler Crossmaster Arena. Donc,
c'est le gros jeu.
Alors, c'est le gros jeu. C'est le jeu de plateau. Donc c'est la boîte de base, on va dire. Donc il sera disponible pour cette fin d'année. Donc il s'agit d'une boîte de base qui est en fait une adaptation de l'univers d'Officier Wakfu en jeu de plateau.
On retrouve des personnages des deux séries.
Voilà, en fait, on va retrouver des personnages qui sont des mêmes classes que celles qu'on va retrouver dans la série animée Wakfu ou dans les deux MMORPG, effectivement.
D'accord. Alors ça, c'est vous avez une grosse boîte et vous avez aussi des petites boîtes type booster.
Voilà, des boîtes additionnelles. En fait, dans la boîte de jeu de base, on va retrouver 8 figurines. Et à côté de ça, on va pouvoir compléter la collection avec 32 autres figurines qui seront dans des boosters individuels, effectivement. Donc des boosters qui seront disponibles en display de 24 boosters. Et dans un display, tous les boosters donneront des figurines différentes.
avec une mini-map, puisqu'on on a un système de mini-map sur dans ces boosters qui est également toute différente.
Exactement. Chaque booster contiendra une figurine, mais également une mini-map unique qui permettra de jouer seul ou à deux avec un mini-challenge donc différent selon la figurine qu'on a dans le booster.
D'accord. Le principe du jeu de plateau, alors, c'est de l'escarmouche, c'est ça ?
Alors, c'est de l'escarmouche, c'est du joueur contre joueur, donc c'est jouable à deux ou à quatre. Chaque joueur contrôle un certain nombre de figurines et doit réussir à mettre en place une stratégie pour vaincre l'adversaire sans se faire surprendre lui-même. C'est du tour par tour. Donc c'est le principe de base.
Et j'ai cru comprendre que les mini-maps, les petits jeux qu'on trouve dans les figurines, c'est du coopératif. Ça peut être coopératif.
Alors ça peut également être coopératif. Donc il y a trois modes de jeu, soit en solo, soit à deux en coopératif, soit à deux en duel.
En PVP.
En PVP.
Très bien. Et je me suis laissé également entendre qu'on pourrait jouer en ligne à Crossmaster Arena.
Exactement, donc pareil pour cette fin d'année, il y aura une version qui sera jouable en ligne gratuitement avec des figurines de base, donc accessible depuis le site crossmaster.com. Et les figurines achetées dans les boosters pourront être entrées en ligne pour pouvoir jouer avec plus de figurines en ligne.
D'accord, donc si on achète la figurine, on peut la réutiliser.
Voilà, il y aura un code qui permettra de l'utiliser en ligne également.
Très bien, très bien. Bah, écoute, on attend ça avec impatience. Merci.
Mais de rien.
Lors de la rencontre de vendredi soir avec les auditeurs Proxy Jeux, il y en a qui sont arrivés avec Pique Pig et Pique Dog. C'était un petit jeu chinois, enfin d'un auteur allemand, au graphisme tout sympa, c'est un jeu de cartes de rapidité qui semblait intéressant. Je l'avais déjà repéré parce que ces graphismes en fait passaient pas inaperçus. On a essayé
tout kawaii, c'est rond,
c'est vraiment sympa. Type asiatique. Enfin, donc,
vous avez énormément de photos sur le site.
C'est type BD,
site.
Non, on dit pas que c'est type BD. Hein.
Est-ce que tu as pris ça en photo?
Je ne crois pas.
Bon, moi,
je peux repasser demain prendre la photo.
Ouais. Alors, de toute façon, on va mettre en commun les photos qu'on a faites de nos iPhones, de nos Android, de notre réflexe, de son réflexe,
de tout
appareils
photo.
Vous aurez un vrai album photo complet de notre voyage à Essen. Vous verrez ça. Et donc, le plus important, c'est que nous sommes retournés
ce matin
chercher un Pick Dog et un Pick Pig.
Voilà. Et en fait, c'était sold out.
Et oui, voilà.
On vous le dit dans les dossiers, ben, on se fait piéger, même nous. Ben, voilà. Il faut pas traîner pour aller chercher des petits jeux un petit peu comme ça.
Ah, mais c'est compliqué. C'est compliqué de savoir ce qui va bien se vendre et ce qu'on va retrouver après et ce qu'il faut absolument prendre sur le site.
Et chaque année, on se fait avoir sur un jeu. Donc voilà. Bon, là, ça va encore penser. Un petit jeu de cartes comme ça, c'est pas non plus le jeu du siècle, je pense, mais c'était un petit jeu sympa de rapidité.
On est passé d'un des plus petits jeux du salon à l'un des plus gros et des plus consistants, puisqu'on avait réservé une table chez Splatter pour essayer The Great Zimbabwe, un jeu pour 2 à 5 joueurs qui dure au bas mot 90 minutes et à mon avis beaucoup plus que ça, 2 heures et demie,
ouais, je pense, ouais.
Ouais, bien 2 heures et demie pour 14 ans, et là c'est pas des blagues, il faut vraiment un ado qui percute, parce que sinon ça n'ira pas. 6 pages de règles seulement, mais
ouais, mais c'est comme Antiquity.
Un jeu de brutasse. Non, c'est pire encore.
Non, mais il y a très peu de pages de règles et après il y a un jeu colossal derrière.
Alors d'abord parce que dans le thème il y a des cartes qui vont venir modifier les règles et venir avantager un des joueurs qui va pouvoir lui modifier les règles pour lui. Et puis des mécaniques qui sont bizarre. Le jeu est très beau, mais tu disais que le plateau était difficilement lisible. Je te suis assez sur ce sujet.
C'est une fois que le jeu est lancé où on a du mal à lire le plateau pour savoir ce qu'on peut faire, quand on va vouloir se développer, combien ça va nous coûter, etc. Et on perd plus de temps finalement à essayer de déchiffrer le plateau qu'à vraiment calculer ce qu'on va faire. Mmh. Alors peut-être que c'est une première partie et que ça s'acquiert après.
Sûrement.
Ça c'est sûr. J'ai un copain qui, de toute façon, qui le ramène. C'est sûr qu'on va. Je vais faire des parties. Est-ce que j'aurai le temps de faire un retour, je n'en sais rien, et dans quel délai non plus, mais je pense que je ferai quand même une ou deux parties minimum.
Ouais, alors ce qu'on se disait, c'est que chez Splatter, ils ont fait Rosenboots, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur jeu de logistique existant. Ils ont fait Antiquity, qui est un excellent jeu de...
Un jeu de développement. On développe sa ville.
Adonisia, qui est un jeu de vente de d'action.
Ouais, de développement de compagnie, mais qui peut fusionner. Enfin, c'est beaucoup d'enchères. C'est vraiment la grosse difficulté du jeu, c'est savoir maîtriser les enchères, ce qu'on peut faire fusionner. Vous connaissez la richesse du monde, bah c'était facile les fusions. Alors que Alors que là-dedans, dans l'Indonésia, c'est très dur d'évaluer ce qu'il faut fusionner, quand le faire, et combien il faut mettre dans l'enchère pour rafler la mise.
Et donc, on a l'impression que ils ont fait ces trois jeux, et ils ont fait des perles pour dans trois domaines, ouais. Trois mécanismes différents. Et en fin de compte, il nous semble que les jeux sont un peu moins parfaits, un peu plus compliqués, un peu pas aussi purs.
Enfin, ce que je leur retire jamais, c'est qu'il y a toujours de la forte interaction.
Et puis, Escape, chez Queen Game. Alors, Escape, c'est un des blockbusters du salon. On en voit partout. On en entend partout aussi. On en entend parce que c'est un jeu avec une
bande-son.
Une bande-son. Et ça, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent Squad 7. Lorsque certains sons retentissent, il faut faire des choses. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que la comparaison ne peut pas aller plus loin. On lance des dés et puis on va découvrir des tuiles, aller sur les tuiles et puis essayer de rajouter des diamants, enfin des...
Voilà, mais on fait surtout lancer les dés en son coin. De temps en temps, on a besoin...
De l'aide de quelqu'un d'autre.
Des copains pour aider. Mais enfin, on joue quand même bien dans son coin. C'est heureusement, il y a un truc qui nous sauve, c'est que ça dure que 10 minutes.
Ouais.
Et finalement, c'est bien suffisant.
Voilà, donc... Alors c'est un peu spécial, c'est un jeu qui est sorti avec son extension, en même temps que son extension qui s'appelle Temple of Illusions. Donc on n'a pas habitué en général chez Queen, il y a d'abord le jeu de base et puis l'année suivante si ça se vend bien, il y a l'extension. Alors ça s'explique parce que il y a un Kickstarter qui a été organisé et qui a raflé presque 60 000 euros.
Dollars.
Ah pardon.
C'est quand même beaucoup moins.
Ça presque 40 000 euros. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins de fait. Et ce qui explique qu'en fin de compte, ils peuvent faire ça, ils peuvent lancer le jeu de base et puis.
En même temps. J'ai l'impression, Queen Game c'est parti à fond actuellement sur les Kickstarter, mais le problème c'est qu'ils ont un peu trop, je pense. Ils ont fait, c'est une belle levée de fonds, hein, 60 000 dollars, mais du coup ils ont surestimé le jeu parce qu'il y a des boîtes, il y en a partout. Quoi.
Comment tu veux surestimer le jeu?
J'en sais rien, mais t'as vu le nombre de boîtes qu'il y a sur le salon.
Quand t'as 40 000 dollars, quand t'as 60 000 dollars, il faut bien faire quelque chose.
Bah oui.
Il faut bien. T'as demandé des sous, il faut bien les utiliser.
Voilà.
Alors à savoir qu'il y a du mouvement chez Queen Game.
Ouais, ils ont aussi un peu, ils sont en train de changer un petit peu à mon avis.
De se réorganiser.
On sait qu'ils ont recruté Stéphane Stadler, qui était jusqu'ici directeur de la collection chez Cosmos, autre éditeur allemand.
Bien connu, une maison carrée. Et ça a peut-être réorganisé un petit peu les choses. Alors, voilà. Bon, on s'est habitué à avoir du déstockage massif de Queens avec des braderies sur la moitié de leur jeu. Ils ont eu le spiel avec Kingdom Builders l'année dernière.
Ça leur a mis les moyens, je pense.
Et ils ont peut-être, on va peut-être voir peut-être un changement de cap de cet éditeur. Bref, bon. Donc Escape, c'est un jeu pour 1 à
5 joueurs.
5 joueurs. Alors oui, tout seul, oui, ok. À partir de 8 ans et 10 minutes seulement, parce que la bande son fait 10 minutes. On est passé sur le site de Yellow. J'ai joué à Uchronia. Il faut que j'ai deux choses à faire. C'est rejouer à la gloire de Rome pour vous en parler un petit peu parce que c'est du même auteur et c'est des mécanismes qui sont semblables. Et puis il faut que je rejoue aussi à Uchronia parce que c'était ma première partie. C'est assez complexe. Il faut se mettre dans le bain des mouvements de cartes. Qui vont dans le stock, après qui remontent dans le forum. C'est un peu la complexité de ce jeu, c'est d'avoir différents endroits où chercher les cartes, et puis différents endroits où les mettre, et qu'il y a un circuit en fait de cartes qu'il faut assimiler. On vous en parlera. Vous avez peut-être repéré un autre jeu chez Hilo qui s'appelle Andor. Andor est out of print sur Essen. Alors pas parce que ils ont vendu les milliers de boîtes qu'ils ont amenées, c'est parce qu'en fait ils ont fait un premier tirage de 2000 boîtes et que le premier millier de boîtes s'est écoulé en 3 semaines et que le deuxième millier de boîtes a été déjà commandé en boutique. Donc il y aura normalement pas de rupture de stock parce que vous allez trouver Andor en boutique, c'est un jeu assez particulier. On peut pas vous en parler parce que on n'y a pas joué et que on peut pas le ramener. Donc on n'a pas eu le temps d'y jouer. Néanmoins, vous aurez pas de problème pour le trouver parce que normalement il y aura un retirage qui sera à la hauteur du succès du premier tirage. Et puis c'est pas mal. Et enfin, ce soir, on les avait ratés hier et on a eu le plaisir de les avoir ce soir. C'est le Gobelin Rose, l'équipe du Gobelin Rose qui à passer un petit moment avec avec nous et ça nous a fait bien plaisir. On en a profité pour les faire parler dans notre micro.
Voilà, nous sommes samedi soir et donc nous sommes à la cafétéria avec le Gobelin Rose. Et oui, déjà, c'est fini.
Oh là là, sniff. Ah non, on revient demain matin quand même.
Oui, nous aussi, mais bon, on part début d'après-midi, mais les valises sont faites, c'est fini, il faut les acheter avant.
Alors, le Gobelin Rose, c'est un podcast que vous connaissez sans doute. Je vous laisse vous présenter. Alors, ils sont pas au complet. Et d'abord, ils ont pas de t-shirt rouge, je suis très déçu.
On pouvait pas les
oui,
trouver.
Oui, mais on est rose. On est bien on rose. Est pas
ah, vous êtes bien rose. Ouais.
Alors, et ben, il y a Mr. Whoops à ma gauche, Mr. Globule, la plume.
C'est lui qui fait l'écrit du podcast.
Voilà, c'est ça. L'écrit au courriel ou. Et moi-même, B52.
Pour la finesse. Voilà.
Alors, en tout cas, le Gobelin Rose, c'est des critiques de jeux de société dans un format court.
Oui. Et, un quart d'heure, 20 minutes tous les mois. Et puis on va modifier un petit peu nos podcasts. On va en faire de plus en plus pour les enfants. Parce que
c'est bien.
Dans notre podcast, dans notre formule podcast, on fait toujours un jeu pour les petits, un jeu pour la famille, un jeu expert et notre gros coup de cœur. Par contre, notre spécialité, c'est vraiment de parler que des choses qu'on aime. Donc on peut parler d'un vieux jeu, on parlera pas forcément des news, on le fait quelques fois. Mais,
ça c'est nous ça.
Quand on vient sur...
ça tombe bien même.
Oui, bah voilà, on est complémentaires.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'on se fait de la pub, sinon on pourrait pas se saquer quoi.
Voilà, voilà. Bah si.
Et donc on va faire de plus en plus des podcasts pour les jeux pour les enfants.
Voilà, toujours vous allez allonger votre
non,
podcast
on va faire des petits podcasts de 5-10 minutes à chaque fois sur un jeu des Dragon Age, des Selecta, des ABBA
c'est vrai que question sur le format a tendance de toute façon naturellement à s'allonger et on pense un peu à ceux qui écoutent plus c'est long, plus c'est chiant.
Est-ce que je te rappelle
c'est un message caché pour nous.
On se fait des amis.
On parle deux à trois fois plus longtemps que non,
on parle de beaucoup de choses. Ouais. Je suis des déchutes et j'approuve ce message. C'est le principe du Gobelin Rose, on donne notre avis, il plaît, il plaît pas.
Ouais, ça c'est comme ça, c'est la radio libre de maintenant, c'est donner son avis et il n'y a pas de problème.
Ça sert à rien de faire consensuel si on ne pense pas.
D'accord. Très bien. Et alors, bon, parlons peu, parlons bien, quel est votre coup de cœur des scènes? Même si c'est compliqué cette année.
Vas-y, Mr. Whoops, commence.
Alors, notre coup de cœur ou pas, oui.
Non.
Alors, vas-y.
Ah, il a dit que vous ne faisiez pas dans le consensuel et maintenant tu vas faire un truc.
Mais mon coup de cœur d'Essonne pour les sorties ici, même si moi j'ai pas découvert le jeu à Essonne, là ça reste quand même Archipelago.
Bien. Ouais, vraiment. Archipelago qui est le prix du public de Octogone à Lyon.
D'accord.
J'en parle parce que personne connaît. Les 2200 personnes, ils ont.
C'est du core gamer à Octogone.
Oui, mais Archipelago, pas forcément. C'est ça qui est bien.
C'est vrai ?
Voilà, bah oui, parce qu'on peut faire des parties très courtes.
D'accord.
Et c'est un jeu de gestion avec du bluff et de la semi-coopération ou pas à cause du bluff. Voilà, c'est des objectifs. Et sinon, un coup de cœur. Riffraff. Non, mais pour les enfants.
Riffraff.
Le bateau en équilibre.
Ouais. C'est magique.
Ça, c'est fun, c'est magique.
Ils savent faire ça, quoi.
Ouais.
Tous les gros succès chez Zor, c'est des jeux comme ça.
Alors, monsieur
le coup de cœur, il s'appelle The Northwest Passage.
Ah,
oui. C'est le passage du Nord-Ouest par les glaces. C'est un jeu qui a été historique, ce qui est déjà pas mal. Avec des vrais capitaines qui ne vont peut-être pas passer, voire qu'ils sont restés. Et c'est sympa parce que c'est un petit jeu de poursuite dans les glaces où on voit des icebergs. C'est mignon tout plein. C'est rapide, c'est franchement.
C'est chez Genix, c'est des amis espagnols.
Quand tu dis c'est mignon tout plein, tu trouves que la réalisation est mignonne ou c'est le concept plutôt
est...
Je trouve que c'est. Ouais.
Mais,
je trouve pas franchement beau.
Non, le plateau est pas beau, mais les cartes.
Ah oui, les cartes, ouais.
Le truc est sympa, ça confine à la course de verre ou de tour, mais on est dans les glaces. C'est original comme approche et comme type de jeu.
On est toujours au contact parce que le passage du Nord-Ouest.
Ça se joue à très peu de choses.
On va faire un peu de Steam Torpedo au milieu.
Il y a un capitaine qui va plus vite que les autres, mais ça ne se voit pas. Il fonctionne tout à
voilà. Et moi, mon coup de cœur, ça va être le jeu de Xavier Georges, Jim Town.
Gicopolis.
Gicopolis.
Bravo, ouais.
Tu as joué
moi. Je suis fatigué. Elle est pas mal, si on la remettra dans la boîte. Gicopolis, c'est vrai que je suis un petit peu moins objectif parce que, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les jeux de cet auteur. Mais j'ai passé un bon moment. On a fait une partie avec l'ami Wittberg, Martin. C'était sympa, une belle découverte. Visuellement, je le trouve assez abouti. Et puis je pense que je vais en faire pas mal de parties. Et puis un autre coup de cœur aussi, chez Asynchron. Comment ça s'appelle déjà
Venise du Nord.
La Venise du Nord, ouais. C'était pas gagné au début.
Ouais, j'étais un peu fatigué au début,
c'est peut-être pour ça. Mais je pense qu'à deux, je vais vraiment adorer.
Finissez bien votre week-end et puis à très bientôt, j'espère.
À bientôt sur notre manifestation.
Voilà.
La prochaine fois, c'est nous qui vous podcastons.
D'accord, allez.
Allez, ciao.
Et puis en début d'épisode, Olivier vous parlait du classement Fairplay. Donc Fairplay, c'est un magazine. Et pour se faire connaître sur le salon, les gens peuvent noter les jeux. Alors en tête de ce soir, il y avait Terra Mystica. Terra Mystica, c'est un jeu qui est sold out déjà depuis le début. C'est du gros
depuis
jeu.
Depuis le début, tu veux dire qu'il n'y en avait pas énormément?
Non, il y en avait peu, il y avait que pour ceux qui avaient précommandé. C'est pareil, ils ont eu un problème de livraison. Nul doute qu'on le verra de toute façon retourner chez un gros éditeur plus tard. C'est du gros jeu de gestion quand même, où il y a pas mal de choses à faire. Ça semble prometteur, le peu qu'on m'en a expliqué. Ça semblait pas mal du tout. En deux, il y avait Keyflower, un jeu de Richard Breeze. Donc on en avait parlé dans l'épisode d'introduction à SN, dans le 35, les jeux qu'on allait regarder. Bon, finalement, on n'a jamais pu approcher. Enfin, on pouvait pas réserver de table pour tester, etc. Donc on a laissé tomber. Mais c'est forcément du bon jeu de gestion aussi. Et puis en trois, c'est Gicopolis, donc jeu de Xavier Georges.
Pearl Games.
Chez Pearl Games. Si ça doit être ça, ça doit être de lui. En 4, Ilvecchio de Rudy Gordorn chez Pegasus. Et en 5, c'est Homesteaders.
On peut noter également dans le Fairplay Scout, Horror, c'est quoi?
C'est City of Horror.
City of Horror, CO2, Tsunkin, ah oui, Anabi, je voyais pas la petite boîte.
Anabi de Anton Boza, quand même.
Qui sort chez Abacus et qui va être mondialement distribué, ça c'est cool. Tolkien, Andor, le jeu de Freeman Frise, et puis un jeu dont on vous a pas encore parlé, c'est Riff Raff. C'est un jeu de chez Zor, c'est un jeu d'équilibre. On va peut-être le ramener ou on va le trouver. On sait pas encore si c'est un bon jeu ou alors si c'est encore une excuse, un mécanisme.
C'est un jeu d'équilibre comme Zor sait bien les faire. Je suis pas très inquiet. Je pense que Gigamic de toute façon le distribuera en France, ouais. Mais ça peut être peut-être, je sais pas, on n'est pas passé les voir, mais ça peut être en janvier-février, mais en tout cas, il sera sans doute distribué par Gigamic.
Bon, voilà pour le Fairplay Scout.
C'est dans les photos, et en fait, je mets les légendes des photos, donc pour dire, parce qu'en fait, chaque fois qu'on passe par là, je fais une photo, et on voit que le classement il bouge, donc j'essaie de dire vers quelle heure à peu près on a fait la photo à chaque fois. Et voilà, je pense que là, on a à peu près tout dit.
Voilà.
Je crois qu'on a rien oublié.
C'est fini.
Et voilà, oui, c'est ça. Donc,
Si, on a oublié des choses.
Non,
forcément.
Ben, ah oui. Eh ben, on a découvert au restaurant ce soir. Merci, Peggy. Il nous a fait découvrir qu'il existait des goodies Carcassonne qu'on a ratés. Donc,
oui.
Demain, on y retourne. Les sous-bocs Carcassonne, par exemple.
Les sous-bocs Carcassonne, et il y a une petite extension qui s'appelle,
le petit bonhomme plein d'épices.
Le bonhomme plein d'épices. Voilà.
Les bonnes couronnes.
Les bonnes couronnes. Man. Je m'en.
La couronne.
Voilà. Ouais, oui, parce que même en visitant et revisitant le même stand, on est passé à côté. On a loupé les t-shirts, mais ça, c'est eux plutôt qui ont eu à louper. Puis après, on n'a pas vu les sous-bocs, on n'a pas vu les petits bonhommes en pain d'épices.
Mais bon, si vous nous écoutez et que vous êtes rentré des Sons et vous dites « Ah, je l'ai raté », c'est
tant
pas
pis.
Grave. Non, mais j'ai un fly dans ma valise avec Idonet, avec... l'adresse du site internet où ils vendent les goodies. Alors, il y aura des frais de port à ajouter sans doute, mais bon, c'est toujours... On vous mettra le lien, je sais pas.
Ouais, il faut faire une commande groupée. Bah, ce soir.
Ce soir, ok. Il va falloir que j'ai dépilé ma valise.
Ok.
Je mettrai un lien, on en reparlera dans un prochain épisode. C'est plus facile.
Voilà. Et ben voilà, donc c'est notre...
Essen, c'est fini.
Essen, c'est fini. On vous donne rendez-vous dans
un an.
Non.
Ah non. Ah bon, alors.
On vous donne rendez-vous dans quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours, 2 semaines maximum.
Une petite trêve pour dormir.
Et puis, ouais, pour dormir. Si vous avez des commentaires, surtout si vous avez vu des choses que nous, on a loupées, n'hésitez pas à commenter le dernier billet. Voilà. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et en attendant, jouez bien.